Salut tout le monde, 13 juillet, angle mort en retard, il est 15h10, c'est épouvantable, habituellement c'est le matin. Ce matin, je voulais parler de consentement, puis j'arrivais pas à trouver un angle que je trouvais intéressant. Je te le dis, là, j'ai starté le podcast, puis je l'ai arrêté au moins 6-7 fois, première fois que ça m'arrive, à vie. Habituellement, je pars, paf, c'est terminé. Le thème me tient à cœur au bout, parce que je t'ai écœuré... qu'on ait toujours la liste de quoi ne pas faire, mais que personne dit quoi faire. Dans le sens que le consentement, c'est pas que c'est compliqué, là. À vrai dire, tu t'en vas sur Éducaloi, puis tu regardes c'est quoi, c'est clair à mort. Puis je pense que la plupart des gars sont au courant. Ceux qui sont problématiques, je pense pas que c'est parce qu'ils savent pas. Je pense qu'à quelque part, ils tournent les coins ronds à un moment donné. Bref, il y avait bien des affaires, je trouve, c'est très riche. Puis là, je me disais, oh, tu sais, genre de sujet que tu fais pour bien faire, que tu essaies de, tu sais, de trouver justement une espèce de truc rassembleur un peu que j'ai fait. Oh. Tu sais, écoute, des fois, je t'ai rendu comme à 7-8 minutes, là. Puis là, j'arrivais dans une zone que moi, je trouve intéressante, que moi, j'ai le goût de parler, tu sais, puis tu fais, oh, comment ça va virer, là? Puis tu sais, c'est comme les sensibilités sont tellement... Et puis je comprends, là. Mais c'est juste, tu sais... C'est très lourd. D'abord, pour les filles qui disent « je vis avec ça », on se comprend. Mais c'est très lourd en général. Tu sais, tu fais comme... Jusqu'où que c'est répandu? Tu sais, là, nous autres, on voit, bon, parce que... Un, c'est une vedette, l'autre est connu. C'est quoi qu'il y a dans les chaumières, tu sais? C'est quoi le... Ça fait que, bref, tout ça, je trouvais ça, mais ça va aller une autre fois. Je suis désolé, ça va aller une autre fois. Ça fait que, on s'en parlera en privé, si ça vous tente, si vous avez des théories ou autre, écrivez-moi. Là, je vais vous faire un podcast qui sera pas d'une particulière profondeur. Oh, j'ai une mot, par contre. Parce que je vais vous parler de différents angles du film Greyhound, qui est une des premières productions qui vient de sortir sur Apple Plus. Alors, Apple TV Plus, c'est le Netflix de Apple, qui coûte 4,99 et qui offre quelques séries, des films, etc., qui, à date, ne m'ont pas attiré du tout. Donc, moi, j'ai un Apple TV, donc je suis vraiment comme à un clic de cet univers-là. Quand je l'ouvre, le catalogue est tout le temps là, je l'ai en face, mais rapidement, je m'en vais... sur mon desktop, t'sais? Dans le sens que quand tu arrives dans l'application Apple TV qui présente le stock de Apple. Puis si tu cliques sur le menu principal, tu arrives sur l'équivalent de ton desktop. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'Apple TV, là, voici comment ça fonctionne. Donc, moi, je suis très au courant d'Apple TV+. Je connais le prix, je sais ce que ça a, rah, 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 rah. Mais ils m'ont jamais attiré. Puis pourtant, moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai une politique... depuis le virus puis le fait qu'on est plus à la maison, j'ai une politique où c'est que je négocie pas très très longtemps, moi, avant de tomber abonné à plein d'affaires. Je suis abonné, j'en avais parlé, mais je le ressens encore, je suis abonné à YouTube Premium, donc j'ai aucune pub, je peux fermer l'app puis le son continue, donc bref, c'est très bon, mais c'est cher, 15$ par mois, mais c'est pas grave, j'utilise ça comme un déchaîné. Je suis Netflix, bien entendu. Je suis Amazon Prime, donc ça vient avec Amazon Vidéo que je ne vois jamais. Puis j'ai un Apple TV. Je suis abonné au Monde, au New York Times. Puis Wired Magazine qui a fait une offre à 15$ pour l'année. C'est que je reçois le magazine papier. Vous l'entendez live. Je ne l'ai pas lu encore. Pourtant, c'est juin, je pense. Mais tu sais, c'est un magazine que je lisais avant qui a dû fondre de moitié. Wired, bon, bref. Fait que, tu sais, ça pour dire que à 4,99, je devrais tomber à pieds joints là-dedans. Mais j'y vais pas. J'y vais pas parce que je suis pas un gars de télésérie. On me dit que la télésérie avec Jennifer Aniston, où est-ce qu'elle fait une animatrice de morning show dans une station de télé, ça a l'air que c'est très bon. Mais je suis pas série, donc. Bref. Mais ils ont sorti deux films dont moi, ça m'interpelle à la mort. Il y en a un, c'était Kevin Bacon, ça s'appelle You Should Have Left the House. Donc, t'aurais dû quitter la maison. Puis Greyhound. Puis Greyhound, on voyait passer sur Twitter des extraits, puis je voyais que c'était un film de guerre très « Sauver le soldat Ryan », ça pète de partout, ça se passe sur un bateau, blablabla. Mais à mon énorme surprise, stratégie que je ne m'explique toujours pas, les deux films que je vous parle, on ne peut pas les acheter, on peut juste les louer pour, tenez-vous bien, $19.99. 20$ pour le louer puis pouvoir le voir pendant 48 heures. Je suis sur le cul. Ça fait que je me dis, je ne les verrai jamais. Puis qui va louer un film 20$? 20$, c'est le prix pour aller au IMAX. IMAX, c'est $19.95. Là, tu veux que pour $19.95, le prix le plus cher au cinéma, tu veux que je regarde sur ma TV un film. Tu veux pas que je l'achète pour 25$ comme beaucoup font. Exemple, Invisible Man, très bon film, était en vente à 24,95 pendant qu'il était au cinéma. Moi, je trouve que c'est une stratégie très valable. Dans le sens que si tu n'as entendu parler ou si tu l'as vu puis tu fais « Tabarouette, c'est tellement hot, je le veux dans ma bibliothèque », ben là, il joue encore, il génère des revenus en salle, tu payes 25$. Sinon, souvent, un film, ça coûte une vingtaine de pièces, si je ne me trompe pas, puis après ça, le prix descend avec le temps. Des fois, tu peux les acheter 10$. Bon. Là, deux films, beaucoup d'appeal, manifestement gros budget, notamment Greyhound avec Tom Hanks. C'est très brillant, d'ailleurs, parce que dans le film, Greyhound, il y a une seule vedette connue, c'est Tom Hanks, et tout le reste, c'est des purs inconnus, de A à Z. C'est des juniors, ça tombe bien. L'histoire, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc on sait que les soldats et tous ceux qui étaient impliqués sur le terrain étaient très jeunes, des débuts vingtaines, sauf quelques officiers, bien entendu. Ça fait que je comprends pas. Et là, comme de raison, mon ami d'homme me dit « Hey Marc, sur Plex, parce que nous autres, on partage Plex, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui permet... Tu prends des films, tu les mets dans ton ordi, t'es plug sur Plex, c'est comme si ton ordi devient un serveur qui permet aux gens que tu donnes l'autorisation de te connecter sur ton ordi pour aller chercher le film. Donc, dans le fond, le serveur, c'est pas le serveur de Netflix ou le serveur de Apple ou le serveur d'Amazon. Le serveur, c'est l'ordinateur de ton chum. Ça fait qu'il me dit, j'ai Greyhound, qu'il peut pas acheter, donc je sais que ça veut dire qu'il l'a downloadé. Mais comment je fais pour le blâmer? Sérieux, il y a toujours eu cette espèce de dilemme-là entre « Oh, ça me gêne pas d'aller chercher Batman. Batman, anyway, ils font des millions. Quand même que moi, je vais le chercher et perdre 10$. » Puis à vrai dire, ils perdent absolument rien parce que ça coûte rien comme tel de... C'est pas comme dire « Ah, ben si je te vends une paire de chaussures, je peux pas la vendre à quelqu'un d'autre. » Non. Tu peux tout le temps faire un download de plus dans le numérique. C'est que c'est pas un frais que ça coûte au producteur à chaque fois. C'est juste que le droit d'auteur est lésé. Puis que si tout le monde faisait ça, bien entendu, ça générait aucun revenu, il n'y aurait plus aucun film parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt d'en faire. Mais là, $19.95 en location seulement, je suis désolé, vous forcez tellement les gens à pirater, ça n'est troublant. Fait que là, il y a quelqu'un qui a dû payer le 20$, il l'a craqué, il l'a mis sur son ordi, il a ouvert les valves, puis là, le monde pige allègrement. Qu'est-ce que je peux dire contre ça, ma foi du bon Dieu, à part que c'est pas légal, je suis bien d'accord. Parenthèse fermée, ce modèle d'affaires-là, si Apple le fait, c'est que d'après moi, ils ont fait un calcul. Ils ont dû dire, écoute, ou bien on le met à 5,6,99, puis anyway, on se fait pirater, ou on diminue les ventes de 75%, mais on augmente le prix fois 3, au final, on va s'en tirer. Moi, j'y crois pas, ce calcul-là. Mais je veux dire, c'est Apple. Ils sont toujours bien plus wise que moi en général. Là. Mais j'y crois pas. Ceci étant dit, le film est extraordinaire. Le film est malade. Puis c'est vraiment un tour de force parce que il y a virtuellement pas d'histoire. Dans le sens que c'est historiquement vrai, c'est une pure fiction, mais c'est historiquement vrai, c'est-à-dire que les convois qui partaient des États-Unis pour ravitailler l'Angleterre, qui est une île, donc qui doit toujours se faire ravitailler depuis son existence, et l'Angleterre n'est pas autosuffisante, on se comprend, Ça fait que là, les bateaux partaient en convoi de plusieurs dizaines, puis traversaient l'Atlantique. Et il y a une zone qui s'appelait le Black Pit, Snake Pit, en tout cas, il y a le mot pit dedans, j'ai oublié c'est quoi. Il y a une zone dans le milieu de l'Atlantique où les avions ne peuvent pas défendre les convois contre les sous-marins, les fameux U-boats allemands. Donc, les avions des États-Unis n'étaient pas capables d'aller plus loin qu'un certain range vers le milieu de l'océan, donc vers l'Europe, et vice-versa. C'est-à-dire que les avions anglais ou français ne pouvaient pas se rendre plus loin qu'à un certain point. Donc, le confluent de ces deux zones, cette espèce de trou noir-là dans le milieu de l'Atlantique, le pit en question, c'était la place la plus dangereuse. Parce qu'à ce moment-là, les U-boats se promenaient en wolfpack. Il y avait des loups dessinés là, sur le sous-marin. Puis ils se rendaient, puis ils détruisaient les gros bateaux qui amenaient soit du fioul ou qui amenaient des armes ou qui amenaient plein d'affaires dont la population en général ou l'armée avait besoin pour poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Ça fait que ça, c'est la donnée de base. Donc, le film commence, on est tout de suite en mer. Non, le film commence que tu vois le capitaine Tom Hanks qui jase avec la femme qui veut demander un mariage, etc. Bon, c'est les premières minutes. Mais après ça, rapidement, on est sur le bateau, puis là, on est parti. Là, il y a toute l'explication que je viens de vous dire. Puis là, tout le film, c'est uniquement des scènes de combat. Point barre. Ça commence quand l'avion dit « OK, on vous laisse ici parce qu'on peut plus aller plus loin. Sinon, on n'a plus assez de gaz pour retourner, on s'écrase en masse. » Fait que, ciao, bye. C'est que là, tu vois l'avion qui est fait normalement pour survoler puis être capable d'aller attaquer les sous-marins puis qui est une arme de défense, on comprend, très efficace. Mais là, il faut qu'ils s'en retournent parce que c'est le plus loin qu'ils peuvent aller. C'est que là, tu comprends, puis là, ils te le montrent. D'une scène à l'autre, ils te disent « Ben là, on était rendu à 48 heures avant d'arriver dans la zone où là, les avions d'Europe sont capables de venir nous défendre. » Là, on était rendu à 36 heures, tu sais. Le film est découpé de même. Mais tout le long qu'ils sont dans le pit, dans cette zone-là, puis qu'ils avancent, ce n'est que ça. Il n'y a aucune relation psychologique. Il n'y a pas une histoire d'amour. Il n'y a pas une histoire bizarre entre l'un puis l'autre. C'est uniquement des scènes de combat extraordinaires. C'est sûr que j'ai tendance à appeler ça un film de gars, là, dans le sens que tu sais, c'est très, très boum, 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 bang, bang, les coups de canon, la patente. Mais c'est d'un réalisme hallucinant. Tu vois toutes les manœuvres qui sont faites. Tu vois c'est quoi le stress quand tu voyais une torpille qui partait là, dans l'eau. Ça, c'est comme un peu... ça nous fait vivre... C'était quoi les images des scènes de combat en mer? C'est quoi quand un sous-marin émerge? De quoi il y a de l'air en dessous de l'eau? De quoi ça a de l'air quand une torpille qui se promène quand même à ras de l'eau? Là, comme, la vue aérienne de ça, c'est quoi? C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. C'est un crime de film. En tout cas, je vous le dis, là. Si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, mais c'est quasiment vous encourager à pirater. C'est gênant, là, faire un podcast public puis dire, mais c'est parce que qui va payer 20$ pour le louer? Je sais pas. En tout cas, si vous faites partie de la gang qui payait 20$ pour voir ce film-là, disponible seulement 48 heures, fine. Je vous trouve plus éthique que moi. Moi, je me prêtais à pas le voir, ceci étant dit, parce que moi, je pirate pas les films, zéro. Moi, quand ça tombe sur Plex, puis j'ai mes amis sur Plex, je vais là. Ça fait des années que je pogne plus de films sur Internet. Je les loue. Une partie de principe, je suppose, puis une partie de trouble, puis une partie de Pirate Bay patente, je sais plus si ça marche. Depuis des années, c'est pas des farces. J'ai downloadé rien depuis des années. Tout, ça passe par mon iTunes, là, mes films sur Apple, à cause que j'ai l'Apple TV. Puis ça passe par Netflix. J'écoute du YouTube. Mes vidéos sont toutes legit, soit qui sont déjà gratuites, soit que je paye pour l'achat. Moi, 6,99 un film, ça me tente d'écouter. Pas de trouble avec ça. Mais 20, non. C'est que là, moi, j'allais pas le voir, ce film-là. Mais je le verrai pas. Puis là, paf, il tombe sur mon Plex. Alors, tiguidou laïlaï. Ça fait que je sais pas comment vous allez vous organiser. Là, ce bout-là me regarde plus. Mais c'est un tabarouette de bons films. C'est excellent. Puis, je sais pas si vous vous intéressez à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, c'est une fascination. J'ai vraiment lu énormément là-dessus. J'ai vu des excellents documentaires. Je vous suggère d'ailleurs Apocalypse. Puis, sur Netflix... Alors, Apocalypse, c'est 6 épisodes sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est sur YouTube. Full gratos. Et c'est vraiment hot. C'est, vous avez certainement entendu parler de ça, c'est les films originaux en noir et blanc, des scènes de l'époque, tout original avec une narration, mais mis en couleur. C'est vraiment mieux, c'est vraiment plus intéressant, ça fait vraiment moins, oh boy, c'est moins papier sablé, là, tu sais. Et dans Netflix, on a aussi eu un autre documentaire avec certaines images qui s'entrecoupent, mais qui s'appelle « La Deuxième Guerre mondiale en couleur » directement. Donc, c'est pas Apocalypse, c'est pas la même prod. Mais les deux, je les ai écoutés à répétition, c'est extraordinairement fascinant. C'est sûr que c'est un intérêt morbide, je vous le cacherai pas, c'est comme « Pourquoi tu t'intéresses à ça? » D'ailleurs, l'autre affaire qui m'a toujours énormément intéressé, c'est la question juive. Toute la question juive, dans le cadre de l'Holocauste, de la Shoah qu'on appelle aussi. Parce que j'ai lu un peu sur l'histoire des Juifs, etc. Mais pas tant. Mais dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai toujours intéressé à savoir qu'est-ce qui fait qu'ils ont passé leur vie à se faire tomber dessus. Comment ça se fait qu'à chaque époque, l'antisémitisme a tout le temps été là. Il y a toujours eu un ressentiment puis un sentiment négatif envers les Juifs qui sont un petit peuple aujourd'hui de 15 millions d'habitants, la plupart en Israël, pour le reste un peu partout. Tu sais, c'est rien. Puis ils ont toujours réussi. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait au monde? C'est pas clair. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait, mais tu sais, c'est un bout d'histoire que c'est comme si... Il y a de quoi très dégradant pour le genre humain de voir à quel point il y a un acharnement sur les Juifs qui perdure, tu sais. C'est très, très capoté. C'est très capoté. Mais bref, c'est toute une autre histoire. Puis je pense qu'ici, au Québec, on n'est pas... Heureusement, en France, c'est déjà beaucoup plus fort ici. On dirait que ça ne nous habite pas. Ça ne fait pas partie de notre histoire. Ça fait que tant mieux. Mais bref, pour des raisons bizarres, ça m'a toujours intéressé. C'est comme si... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu... Ça m'apparaît-tu comme une injustice, genre la plus grande injustice au monde? Mais j'ai lu le fameux livre « Les Bienveillantes » de Jonathan Little, qui a gagné le prix Goncourt en 2000, je me souviens plus, 13, 14, 15, dans ce coin-là. Une espèce de livre écrit comme une Bible, tout petite, une page, 1200 pages, c'est un exercice, c'est le livre le plus difficile que j'ai jamais lu de ma vie. C'est comme, tu lis ça, puis tu as le goût de... Tu fais, OK, je l'ai commencé, je vais le finir, mais... C'est pas que c'est insupportable parce que c'est tellement terrible, non. L'histoire, c'est les camps de concentration, mais vu d'un officier allemand. C'est toujours vu des yeux des Juifs puis des victimes. Là, c'est un officier allemand. Que tu vois que pour lui, c'était comme une job. Là. Tu vas rentrer par train, comme si c'était des patates. Ça fait que c'est vraiment hallucinant. Puis j'ai regardé tous les documentaires, puis toute l'histoire d'Hitler, puis tout ça. Ça fait que... Bref, la Deuxième Guerre mondiale, si ça vous intéresse, c'est sûr que Greyhound, vous allez dire comme... Ah, ben ouais, écoute, ça pète tellement, là. Puis les scènes sont vraiment spectaculaires. À la fin, le dernier sous-marin là, que tu dis, c'est lequel des deux qui va tuer l'autre. Là. Puis là, finalement, ils réussissent à rejoindre le range des avions. Puis la scène finale, tu sais, c'est l'avion qui laisse aller ces espèces de torpilles, mais qui partent dans toutes ses ailes. Des trucs que je savais même pas qu'ils existaient. Là. Puis là, mon gars, bam, bam, bam. En tout cas, c'est vraiment hot. Ça fait que, voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, à défaut de rentrer dans le creux du sujet, ben je voulais vous jaser de ça. Si vous êtes un tripeux de cinéma, je vous le suggère fortement. Un autre petit film que j'ai vu hier, qui vient de sortir sur Netflix, donc là, on ne sera pas dans l'illégalité si vous le regardez, à moins, comme je le dis, que vous payez 20$ pour le louer, mais là, ça me fait un peu capoter, mais ça s'appelle Our House. C'est super intéressant, c'est un film d'horreur sur Netflix, qui est sorti une journée ou deux. Puis, c'est des parents qui meurent dans un accident d'auto, puis il reste les trois enfants à maison. Un qui a comme 17 ans, l'autre en a peut-être 13, 14, puis une petite fille qui a 7, 8. Puis là, le gars, il est en train d'inventer une machine qui permet de transférer de l'énergie sans fil. Donc, à partir de sa machine, il espère pouvoir mettre de l'électricité dans sa TV, faire allumer lumière, tu sais. Mais ça amène l'esprit de ses parents, puis finalement, ben ça amène aussi d'autres esprits. Puis le film est plutôt lent, c'est-à-dire que c'est pas long, c'est une heure et demie à peu près, mais ça monte pas tout de suite, genre « Oh my God, je veux me tirer en bas du pont parce que j'ai tellement peur, là. » Mais ça avance, puis à la fin, ça devient vraiment très, un peu comme Insidious, là, tu sais. C'est très monstre, fantôme, les ombres, etc., le cachot. Fait que le dernier 30 minutes, là, vraiment, ça pète. Mais avant ça, c'est quand même super intéressant. J'ai trouvé ça très bon. Ça me fait penser un peu au film québécois, là. C'est quoi donc, Colin, le titre, là, qui a été super encensé, là. C'est un peu dans cette mouvance-là. C'est parce que je me mêle entre le mot en français et en anglais, là. Jusqu'au bout, une affaire de même, ouais, jusqu'au bout, en tout cas, bref. Ça fait que Our House, je vous conseille ça. J'ai pas regardé s'il est en français aussi, là. Je sais pas si vous écoutez juste en français. Puis sinon, Greyhound, c'est la totale. Donc, voilà. Alors, pour aujourd'hui, bon, épisode un petit peu comme ça, en retard, dans le milieu de l'après-midi. Là, je vous explique un peu pourquoi. Voilà, c'est la vie. Là, je travaille sur marcboiler.com, dans lequel vous allez retrouver tous mes podcasts. Parce que j'en ai trois qui roulent, puis c'est le bordel. Parce que ça se parle pas, ça se touche pas. J'essaie de plugger, c'est tout croche. Je dirais qu'à quelque part, dès la semaine prochaine, je vais avoir enfin un site tout nouveau, avec des nouvelles offres. Un nouveau show aussi que je vais vous parler. 14 août, je donne déjà la date, 14 août à Québec. Plus de détails à venir. Fait qu'on se reparle demain matin, normalement. Et puis, merci. Salut, bye.